BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce monde qui est en train de se construire sous nos yeux, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros, les cryptos. Donc, comme chaque semaine, nos NFT à nous sont là, nos talents non frangibles. Claire Balva, VP Stratégie de Deblock. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Donc, c'est la première pour cette année 2025, meilleurs vœux Claire. Et c'est aussi sa première. Thibaut Boutroux pour 2025. Bonjour Thibaut, meilleurs vœux aussi pour Meria. Thibaut Boutroux qui nous accompagne également régulièrement. Alors, dans un instant, on va bien sûr refaire la semaine en 20-25 minutes seulement, mais d'abord, quel potentiel technique sur les cryptos. Xavier Fenot aussi est avec nous, bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver, Interactive Trading. Eh, hey, c'est pas mal là, on termine pas mal la semaine sur le Bitcoin, et est à nouveau, en ce vendredi après-midi, au-delà des 100 000, même au-delà des 102 000 dollars, Xavier.
Oui, clairement, ça se passe plutôt pas mal. En fait, finalement, on a les mêmes niveaux en fait sur Bitcoin qu'on connaît depuis fin novembre, les fameux 92 000 dollars en bas et les 103 000 dollars en haut, vous venez de le dire, on est en train de s'en approcher. Mais le plus important, finalement, c'est pas de retenir que ça stagne depuis deux mois, mais qu'il y a des éléments positifs, en fait, dans cette consolidation latérale. Alors déjà, première chose, c'est que justement, c'est un étage qui est en train de se construire progressivement et de rendre donc plus solide ce support des 92 000 dollars qu'on connaît depuis maintenant le mois de novembre. Deuxième chose, c'est que la tendance primaire, c'est celle qui précède finalement cette longue stabilisation et haussière. Donc, on a plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. La troisième chose, c'est que à chaque repli, à chaque petite panique en cours de journée, chaque épisode finalement de liquidation de position acheteuse, c'est ce qu'on appelle un spike, c'est systématiquement effacé presque du jour au lendemain. En fait, on a eu encore l'expérience lundi, on a eu 600 millions de dollars qui ont été envolés. Le Bitcoin est passé finalement le temps d'un instant sous 90 000 dollars panique. Et ben finalement, dès le lendemain, ça repartait déjà à l'assaut des 100 000. Et puis la quatrième chose, c'est ce mimétisme qu'a le marché des crypto-monnaies avec les marchés traditionnels. Wall Street est en train de se détendre avec les chiffres d'inflation aux États-Unis qu'on a vu cette semaine. Pas de mauvaise surprise, c'était un peu l'inquiétude de ces dernières semaines. Ça détend le taux à 10 ans aux États-Unis, ça rassure les classes d'actifs risqués, donc marché traditionnel et crypto-monnaies. Donc oui, effectivement, c'est assez enthousiaste finalement, et on reste optimiste, parce que même s'il faut être patient, hein, et parfois même travailler, retravailler à plus court terme pour profiter en fait des replis qu'on a sur ces zones de support, alléger encore le rebond, recommencer. Alors ça, c'est si on est actif, parce que pour le moment, à long terme, la patience est payante, et même si on devait revoir les 80 000 dollars sur Bitcoin, je vais pas faire le chat noir, ça resterait quand même positif à moyen terme. Donc on peut s'attendre, vu la configuration technique aujourd'hui, à ce qu'on fasse des nouveaux records historiques en 2025, au-delà des 108 000 dollars qu'on a laissé fin 2024. Mais là, l'objectif, c'est avant tout en fait de pas se faire avoir à chaque fois que le Bitcoin retombe justement sur ces zones support qui sont, depuis des semaines finalement, des zones d'entrée à l'achat pour les investisseurs.
Effectivement, un mot aussi de l'Ether quand même, on est un peu plus, à peine, au-dessus de 3400 dollars en ce moment pour l'Ether. Est-ce que la dominance du Bitcoin s'est encore accrue là depuis quelques semaines, ou l'Ether au contraire redevient un peu plus convaincant?
Alors non, effectivement, l'Ether c'est toujours plus faible que Bitcoin, ça s'arrange pas, mais là aussi ça reste positif en fait au-dessus des 3000 dollars. C'est techniquement ce qu'on appelle un croisement des moyennes mobiles hebdomadaires, et comme sur Bitcoin, finalement la panique du lundi montre que le marché en fait a les capacités de les absorber rapidement. Donc même si c'est moins punchy que Bitcoin ou d'autres altcoins, je continue pour le moment de rester positif en étant là encore plus rigoureux finalement sur les entrées, parce que les replis sont plus importants que Bitcoin. Et même s'il a perdu l'Ether par exemple 30% depuis ses plus hauts de la fin d'année 2024, ça reste positif à moyen terme tant qu'on tiendra les 3000 dollars, avec toujours deux cibles, 3600 et 3900 dollars pour commencer.
Xavier Fenot pour Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagné. Alors cette semaine a été très riche, avec en plus des indicateurs, des statistiques très intéressants qu'on va analyser. Par exemple sur l'adoption des cryptos, eh bien la France est vraiment en retard sur ses voisins. Résultat d'une étude Ipsos qu'on va donc détailler dans un instant. Mais du coup ça laisse de l'espoir, les choses peuvent s'améliorer. La France en retard sur ses voisins. Dans les autres pays, on voit que l'adoption va un peu plus vite qu'ici. On parlera de Cannes, qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Peut-être la ville la plus crypto-friendly de France. Oui, Cannes est-elle en train de devenir la ville la plus crypto-friendly? La municipalité va former aux crypto ses commerçants. Ils sont nombreux et vous allez voir que ça s'inscrit dans une stratégie encore un peu plus large vis-à-vis des cryptos de la part de cette municipalité cannoise. On parlera aussi bien sûr de Donald Trump qui arrive. On est à 3 jours maintenant de son retour à la Maison-Blanche. Alors que peut-on attendre de son discours d'investiture? On va essayer de vous apporter en tout cas un coup d'avance. Et puis on parlera de ce gros cas d'usage en construction aux États-Unis. Les clients américains de Coinbase vont pouvoir faire des emprunts en utilisant Bitcoin en garantie. Tiens, ça aussi, ça ouvre un nouveau champ. C'est votre machine à concentrer l'essentiel chaque semaine, les pros des cryptos. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Claire Balva et Thibaut Poutrou, bonjour à tous les deux.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Cette année 2025 commence bien. Vous savez pourquoi ? Parce que les choses peuvent encore progresser, il vaut mieux ça que l'inverse. Vous êtes d'accord ? Eh bien, en matière d'adoption, les choses peuvent encore s'améliorer. Une étude Ipsos vient donc de sortir, elle montre que 9% des Français ont des cryptos. Alors 9%, c'est pas mal. Mais c'est moins que chez nos voisins, en l'occurrence, Claire.
Alors c'est surtout moins que ce qui avait déjà été estimé en France par d'autres études du même institut de sondage, en plus, qui indiquait plutôt un taux d'adoption à 12% en France, qui avait été faite à peu près à la même période, donc fin 2023, début 2024. Donc c'est pour ça que ce chiffre de 9%, il paraît bas, parce que on avait déjà estimé ça à 12%. Maintenant, c'est toujours le fameux écart entre les estimations des manifestants et celles de la police, hein, puisque les autres études avaient été commanditées par aussi l'association des entreprises crypto. Ici, c'est la BCE, donc c'est quelque part plutôt normal qu'on ait un chiffre un peu plus bas quand c'est la BCE qui commandite ce sondage. Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas tant ce 9%, qui certes est un peu plus bas que ce qu'on aurait pu vouloir ou attendre. C'est plutôt dans le détail, quand on regarde les objectifs de détention des cryptos. En fait, en France, c'est un pays assez particulier, puisque c'est là où on a la plus grande proportion de détenteurs qui disent utiliser les cryptos, pas juste pour de l'investissement, mais plutôt pour du paiement. On a 25% des détenteurs en France qui annoncent, selon ce sondage, utiliser les cryptos pour du paiement. Et moi, ça m'a semblé très très élevé par rapport à ce à quoi je m'attendais et par rapport à ce qui avait été mesuré auparavant. Donc c'est plutôt là cette source d'étonnement. Et puis après, on a effectivement des statistiques au niveau européen. Donc on voit que les pays où il y a le plus de détenteurs, ça va être plutôt la Grèce ou la Slovénie. On n'est pas si en retard, hein, puisque nos voisins comme l'Espagne ou l'Italie ont des taux d'adoption assez similaires aux nôtres.
Effectivement, donc retard français. Enfin, on a 9% donc d'adoption ici en France contre 12-13 chez un certain nombre de nos voisins. Voilà.
Oui, 12-13 chez un certain nombre de nos voisins, mais finalement, on n'est pas si loin de la moyenne. Et quand on regarde l'appétit des Français pour l'investissement en général, c'est là non plus pas si étonnant qu'on soit légèrement en dessous.
Alors, on le disait la semaine dernière, les cryptos deviendront une évidence pour tout le monde si les cas d'usage se multiplient aussi chez nous. Attendez, juste un instant. Notre réalisateur Chris, en régie, veut réagir. Chris.
Eh bien, justement, Guillaume, tu parles de l'adoption des cryptos. Apparemment, la municipalité de Cannes va former ses commerçants au paiement en crypto. Et franchement, moi qui suis cannois, c'est une big news. Il y a 3000 commerçants à Cannes, c'est gros, non ?
Hey, j'ai vu passer cette info aussi, il a raison Chris. C'est gros ce qu'annonce la municipalité de Cannes, qui va former donc ses 3000 commerçants au crypto, Claire et Thibaut. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Thibaut ? Est-ce que c'est un vrai pas en avant ? Est-ce que Cannes est en train de devenir la ville la plus crypto-friendly de France, Thibaut ?
Alors, je ne sais pas si c'est la ville la plus crypto-friendly de France, mais en tout cas, c'est une super initiative qui est assez logique et qui est abordée avec un angle très pragmatique. Hein, le maire David Lisnard, il a abordé le sujet en disant « je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien ou pour faire la promotion de quoi que ce soit ». Moi, je constate juste qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans un certain nombre de villes. Nous, on est un bassin touristique international, on a des clients qui viennent de partout dans le monde. C'est pas incohérent de rajouter une corde à l'arc de nos commerçants. Donc, je trouve que l'initiative, elle est plutôt à saluer sous ce sens-là. Et ça s'inscrit aussi dans quelque chose une stratégie un peu plus en longueur avec la réception en juin, juillet prochain d'un événement qui s'appelle Il y a un événement majeur dans la.
Thibaut, on va essayer d'améliorer la connexion, elle n'est pas bonne du tout là, on vous entend très très mal. Bah oui, si vous étiez à Cannes, on vous entendrait peut-être beaucoup mieux. Non mais, mine de rien, 3000 commerçants à Cannes, c'est la première fois qu'une ville de cette taille en Europe lance un programme de formation aux cryptos.
Oui, c'est étonnant. Alors c'est toujours positif, hein, l'acculturation, quoi qu'on en dise, ça permet aux commerçants de mieux comprendre ce dont il s'agit, de pouvoir répondre aux questions quand ils ont des personnes qui leur disent « est-ce que je peux payer en Bitcoin chez vous ?» Donc c'est évidemment très positif, surtout quand on imagine des touristes venir de l'international et pouvoir payer plus facilement avec des cryptos. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'en France, on a quand même une fiscalité qui est totalement inadaptée à l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement. D'ailleurs, c'est très dommage, mais le fait d'acheter un bien ou un service en crypto déclenche une opération imposable. Donc concrètement, si vous allez faire vos courses en crypto, c'est pas un problème, vous pouvez bien sûr payer en crypto, mais derrière c'est quand même un casse-tête administratif important. Et donc je me demande quelle est la compatibilité entre ce type d'action politique et la fiscalité qu'on a en place aujourd'hui, tout simplement.
Ouais. Et la ville de Cannes qui s'engage quand même, puisque après cette annonce sur la formation à venir des commerçants cannois aux cryptos, eh bien Cannes, qui dans quelques mois va accueillir, héberger l'Ethereum Community Conference l'été prochain, ce qui est quand même un gros événement, c'est ça?
C'est le plus gros événement de la communauté Ethereum en Europe, donc c'est un événement très attendu, où se rendent d'ailleurs de nombreux développeurs. C'est un événement relativement technique, mais ça montre ici qu'il y a une vraie volonté de la municipalité, particulièrement David Lisnard, de se positionner sur ce sujet crypto.
Et donc Thibault vient de déménager à Cannes, ça y est, on a retrouvé du coup une bonne connexion. Thibault, comment est-ce que vous regardez, de quel œil regardez-vous cet engagement de Cannes vis-à-vis des cryptos?
Ouais, alors j'espère qu'on m'entend mieux. Il est pas non plus nouveau, puisque Cannes avait déjà eu une initiative dans les NFT il y a quelques années. Ils sont aussi sur l'intelligence artificielle, puisqu'en février ils ont aussi un sommet autour de l'intelligence artificielle. Donc ça s'inscrit dans cette démarche d'être un petit peu à la pointe de l'innovation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, c'est un ETHCC, c'est quand même un événement où on a les gros acteurs qui viennent, et en termes d'impact économique, c'est quand même un très très gros événement qui n'est pas très connu du grand public, mais donc je trouve que c'est un très bon coup qui est réalisé par Cannes.
Oui, et on peut relier ces deux informations, à savoir la ville de Cannes veut former ses commerçants aux cryptos pour accepter, pourquoi pas un jour, les paiements en crypto, et parallèlement, ce qui ressort de cette étude Ipsos, à savoir que 25% en France des détenteurs de crypto en détiennent pour un jour payer en crypto.
Et en fait, c'est ça, dans cette étude, il y avait un peu plus de 50% qui disaient j'utilise les cryptos uniquement pour de l'investissement, 25% qui disaient uniquement pour du paiement, et après on avait une autre partie qui était pour un peu des deux ou pour d'autres actions.
Ben voilà, bien vu Chris, notre réalisateur en régie, tu le sais, tu interviens comme chaque semaine quand tu le veux, quand tu le souhaites, c'est ta libre antenne. Il est cannois en plus, donc ça lui faisait plaisir qu'on parle de Cannes aussi rapidement dans les pros des cryptos. Les cas d'usage dans nos pays occidentaux, il y en a aussi en construction, bien sûr, aux États-Unis des cas d'usage. Les clients américains de Coinbase vont pouvoir, Claire, faire des emprunts en utilisant Bitcoin comme garantie.
Oui, tout à fait. C'est un peu comme quand vous empruntez en mettant, vous savez, une hypothèque potentielle sur votre maison. C'est-à-dire que là, vous mettez vos bitcoins en garantie et ensuite vous empruntez. Alors, souvent d'ailleurs, vous empruntez en stablecoin. C'est assez pratique. Derrière, vous allez pouvoir soit dépenser ces liquidités, les convertir en fiat, faire votre vie avec. Soit vous allez pouvoir générer des rendements un peu différents dans la finance décentralisée. Donc, il y a tout un tas d'usages possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse vraiment à une communauté de gens qui ont potentiellement beaucoup de bitcoins, qui n'ont pas du tout envie de les vendre, et qui se rendent compte que ces bitcoins ne sont pas tellement acceptés comme garantie ou comme indice de solvabilité par des banquiers. Si vous allez emprunter là pour acheter un appartement et que vous allez voir le banquier en disant « vous inquiétez pas, regardez, finalement j'ai plein de liquidités, j'ai du bitcoin », je peux vous assurer que la plupart des banquiers en face, ils vous disent « oui, mais enfin, demain ça peut valoir zéro, donc en fait je n'ai absolument pas confiance dans vos liquidités, donc vous avez un profil de risque très élevé ». C'est pour ça que ce type de produit est très très attendu des bitcoiners.
On va aussi suivre en cette année 2025 l'adoption des cryptos par les institutionnels. À quoi s'attendre cette année? On voit que de plus en plus de banques goûtent aux cryptos comme ça, pour voir, juste pour tester. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que la plus grande banque d'Italie, Intesa Sanpaolo, vient d'acheter ses 11 premiers bitcoins.
Oui, alors ça a fait grand bruit. Ce qui m'a beaucoup étonné dans cette nouvelle, c'est qu'évidemment la direction de la banque a été interrogée et leur grand patron a dit non, mais c'est un test et on se prépare au cas où un jour on doit effectivement en acheter parce que peut-être qu'il y aura une demande de nos clients. Donc on est vraiment sur une toute première étape et on a l'impression que le patron était d'ailleurs un peu gêné puisqu'il a dit je suis pas du tout en train d'inciter mes clients à aller acheter du bitcoin, je les invite plutôt à rester loin de cet actif-là. Donc, ils ne sont pas en train d'en faire la promotion, mais ce que ça montre quand même, c'est que les banques, encore une fois, s'intéressent à ce sujet-là. Ça vient à la suite de plein d'autres nouvelles qu'on avait eues en France. Je pense notamment à plusieurs grandes banques françaises qui avaient obtenu leurs agréments auprès de l'AMF pour pouvoir ensuite développer des activités crypto. On en avait parlé ici. Donc, c'est juste un signal de plus qui montre que 2025 va probablement être l'année où on va avoir des banques qui vont sortir leurs offres crypto.
Thibault, du côté des institutionnels, du coup, qu'est-ce que vous attendez cette année? Quelles avancées fortes est-ce que vous espérez du côté des grands acteurs bancaires ou en tout cas institutionnels au sens large?
En tout cas, c'est sûr que c'est ce qu'on va regarder puisque les institutionnels seront une des composantes très importante de ce cycle-là. C'est d'ailleurs une des composantes qui a déjà commencé en 2024. On a déjà vu un certain nombre d'initiatives en 2024. Pour moi, il y a trois angles qu'on peut regarder. Il y a un premier angle qui est purement métier, purement technique, où on va voir de plus en plus d'acteurs institutionnels qui vont, utiliser, exploiter la blockchain pour des composantes métiers déjà existantes. Ça, c'est la partie un petit peu la moins visible, on va dire. Ensuite, il y a toute la partie service, c'est ce que Claire venait de dire. On va avoir de plus en plus d'acteurs bancaires, d'acteurs institutionnels qui vont déployer des services crypto pour le compte de leurs clients. Ça peut être des services d'investissement, mais ça peut être aussi et surtout ce qu'on voit beaucoup émerger aujourd'hui, c'est des services de garde, par exemple, ne serait-ce que pouvoir déjà conserver les cryptos de ses clients. Donc, on a déjà des acteurs qui ont proposé des services en 2024. On en a beaucoup qui sont en train de discuter en coulisses, beaucoup qui sont en train d'accélérer. Le risque est vraiment en train de s'inverser. Pour concrètement, on voit des acteurs là qui se disent on est en retard, il faut qu'on y aille. Ce qu'on vient de voir en Italie est symptomatique de ça, c'est-à-dire que on a un fondateur qui va, un président qui va dire j'incite pas mes clients à y aller, mais qui commence quand même à proposer des solutions parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer. Et on a la dernière variable à regarder qui est un petit peu la réponse et la contrainte à tout ça, c'est l'aspect réglementaire, où on a beaucoup d'évolutions réglementaires qui vont arriver en Europe sur cette année 2025. C'est ce qui va permettre de mettre en fait le curseur et un peu la vitesse à laquelle les institutions et les acteurs crypto vont pouvoir se déployer.
On vous met chaque vendredi sur l'avant de la vague vos pros des cryptos. On va bien sûr parler dans un instant de Donald Trump qui arrivera, qui retournera, qui reviendra à la Maison Blanche dans quelques jours. Mais d'abord, les Émirats Arabes Unis font un pas de plus vers cet écosystème crypto, Claire.
Alors c'est plutôt un fonds en fait qui a levé de l'argent pour investir dans des entreprises crypto, ce fonds qui s'appelle Sigma, qui est présent aux Émirats Arabes Unis mais qui est aussi présent à Dubaï, à Singapour. En fait, cette nouvelle, pour moi, elle est surtout importante parce que ça montre qu'on commence de nouveau à avoir des fonds d'investissement qui vont aller investir dans des entreprises qui font de la crypto.
C'était plus le cas depuis les affaires.
C'est ça. Vous vous souvenez sur ce plateau, oui. Moi je me rappelle en 2021, même 2022, on parlait toutes les semaines de certains fonds qui levaient des montants astronomiques pour aller investir dans des boîtes crypto. Et puis ça s'était tari. Et pendant tout le bear market, on n'avait plus de nouvelles et bizarrement, plus personne ne mettait de l'argent dans la crypto. Et donc là, c'est une nouvelle qui montre que ça y est, ça repart petit à petit. Alors, 100 millions, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est le même montant que Ledger Cathay, par exemple, avait levé en France il y a quelques mois. C'est quand même relativement faible par rapport à ce qu'on a vu en 2022 avec des A16Z, par exemple, qui avaient levé 40 fois plus. Et qui sont vraiment aujourd'hui des mastodontes qui ont investi dans tout le secteur crypto aux États-Unis et même au-delà. Donc voilà, on va voir. Je pense qu'ils vont investir dans quelques dizaines, peut-être une centaine d'entreprises. Et ça va être intéressant de suivre quelles vont être les tendances aussi, parce que vous savez, on peut investir dans de l'infrastructure, dans des plateformes. Donc voilà, affaire à suivre.
Effectivement. Est-ce que vous êtes prête à le voir revenir à la Maison Blanche? Lundi débutera l'an 2 de Donald Trump, le deuxième mandat de Donald Trump. Oh là. Oh là. C'est Godzilla. Il n'est pas encore à la Maison Blanche, mais le sol tremble déjà sur les marchés depuis des semaines. Chacune de ces déclarations a un effet, positif ou négatif, mais tout tremble et les repères sont déjà en train de bouger alors qu'il n'est même pas encore à la Maison Blanche. Oui, c'est un point commun entre Donald Trump et Godzilla. Il n'est pas encore en place que déjà chacun de ses pas fait tout bouger et trembler. Et donc lundi, il sera de retour. Cérémonie d'investiture devant le Capitole. Ma question sera simple. Thibaut et Claire, je vous l'adresse à chacun d'entre vous. Avez-vous des infos sur le contenu de son discours d'investiture lundi? Va-t-il, dans son discours, parler des cryptos qu'il a tant soutenu Thibault pendant sa campagne?
Alors, il m'a pas encore consulté, donc j'ai pas de détails sur le discours. Mais plus sérieusement, mon pari, c'est qu'il va pas les aborder directement, les cryptos. Je pense qu'il va aborder la tech de manière générale, en incluant un petit peu les cryptos, l'IA, etc., dans un package un peu global pour toucher à tout. Ce qui est sûr, c'est que l'écosystème crypto, il va scruter de près ce discours et que, comme vous l'avez dit juste avant, la moindre déclaration qu'il va faire dans ce sens-là, elle pourra avoir un effet positif ou négatif sur le marché. Au-delà du discours, pour moi, ce qui va être important, c'est vraiment de regarder ce qui va se passer après les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois après l'investiture. Est-ce qu'il y a effectivement des promesses qui vont être tenues? Est-ce qu'il y a des décisions fortes qui vont être prises sur les cryptos? Et c'est surtout à ça que le marché réagira, même si on est à fleur de peau et que la moindre news elle aura un effet, c'est certain.
Oui, Claire ?
Sorte d'attente, puisque les entreprises crypto ont continué à donner de l'argent, enfin les entreprises tout court d'ailleurs, mais dont les entreprises crypto, et on a un total d'une dizaine de millions de dollars qui ont été de nouveau donnés à Donald Trump pour cette journée d'investiture, donc on sent qu'il y a une sorte d'attente de la part des entreprises. Alors, faut bien voir que ça peut être une opération rentable de donner de l'argent à Donald Trump pour ça, parce que s'il dit simplement le mot Bitcoin ou le mot Dogecoin pendant son discours d'investiture, ça peut faire monter le cours, donc ça peut générer plus d'activité à très court terme pour ces entreprises-là. Et on voit d'ailleurs qu'il y a cette attente, puisque quand on va voir les plateformes comme Polymarket qui sont interdites, donc évidemment vous ne pouvez y aller que si vous avez des VPN, on voit qu'il y a des paris sur est-ce que Donald Trump va prononcer le mot Bitcoin ou non pendant son discours d'investiture. Donc c'est très très scruté. Puis après, à moyen terme, Thibault le disait, je pense que ce que les entreprises attendent, c'est que Donald Trump prenne des mesures. Là, en ce moment, on parle d'executive order, par exemple, pour résoudre des problèmes comme la bancarisation des entreprises crypto ou comme des problèmes de normes comptables qui freinent l'adoption de Bitcoin par les institutionnels. Et ça, ça pourrait aussi libérer les entreprises à moyen terme, les aider à se développer puisqu'elles auraient moins de freins administratifs.
Et dès lundi, alors Donald Trump investit lundi, et dès lundi, Gary Gensler, le patron de la SEC, va céder les rênes de la SEC, le gendarme des marchés américains. Il se murmure que son successeur pourrait aller vite et suspendre certains litiges crypto sans attendre dès la semaine prochaine.
Oui, alors ce sont des rumeurs, là aussi, mais ce que je comprends, c'est surtout qu'il souhaite se concentrer sur les cas de fraude. Autrement dit, quand on suspecte un cas de fraude, on continue les enquêtes et on y va. Quand il y a des, en fait, souvent il y avait eu des enquêtes, vous savez, avec la SEC et Gary Gensler, qui étaient plutôt liées au statut des crypto-monnaies. Est-ce que c'est une securities? Est-ce que c'est une commodity? Et on sent là que, voilà, la SEC va lâcher du lest petit à petit et qu'on va avoir une réglementation qui va être à la fois plus claire et plus favorable aussi au secteur.
Effectivement. Et la justice américaine s'en mêle, puisque Thibault, elle semble vouloir la justice américaine se mêler au débat. Elle vient demander à la SEC des explications sur son comportement des dernières années face à l'écosystème crypto.
Ouais, c'est ça. Alors pour contextualiser, on est dans le cadre d'un litige entre Coinbase et la SEC. Coinbase qui avait demandé à plusieurs reprises à la SEC de statuer sur les cryptos en apportant une réponse claire et précise sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire, ce que la SEC n'a pas fait, et qui même en 2023 ils avaient rejeté complètement la demande de Coinbase, ce à quoi Coinbase avait répondu par une poursuite. Et donc là on est dans le cadre de cette poursuite, et là la cour d'appel a demandé à la SEC d'apporter une justification au fait qui n'est pas statué. Alors on avait eu des premiers éléments de réponse à l'époque de Gary Gensler qui disait que c'était une question de proportion et qu'en fait la crypto était encore marginale, et donc ils attribuaient une proportion des ressources qui était équilibrée par rapport à ça. L'argument n'a pas été suffisamment convaincant. On attend plus de détails. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une justification qui est attendue de la SEC sur ce point-là. Par contre, ça n'impose pas à la SEC de statuer sur le sujet crypto et d'apporter une réglementation claire et précise, ce qui est quand même le but à terme.
Effectivement. Lundi, Donald Trump revient à la Maison-Blanche. C'est la question crypto qui claque, mes amis. Mais oui, première question crypto qui claque de l'année. Chaque semaine, on va, tout au long de cette année 2025, à nouveau poser ces questions qui fâchent sur nos réseaux sociaux, le fil XBFM Crypto, notamment auquel vous pouvez vous abonner. Thibault et Claire, êtes-vous prêts?
On est prêts.
Voici la question crypto qui claque, la première de l'année. Donald Trump revient lundi au pouvoir. Après avoir acheté la rumeur, le marché pourrait-il revendre la nouvelle et donc revendre des cryptos? Est-ce que les cryptos pourraient baisser avec cette arrivée de Donald Trump? Oui ou non? C'est la question du jour. Je vous laisse un instant de réflexion à l'un et l'autre. N'hésitez pas vous tous aussi à voter et à nous laisser à chaque fois vos arguments en commentaire. On essaiera chaque semaine, encore en cette année 2025, de rebondir sur vos arguments. Claire, après avoir acheté la rumeur, le marché va-t-il vendre la nouvelle et revendre les cryptos avec l'arrivée de Donald Trump?
À court terme, oui, mais à moyen terme, je suis plutôt confiante.
Thibault ?
Je pense que non, mais effectivement, on va avoir beaucoup de volatilité, ça c'est certain.
Oui, on pourrait avoir réaction épidermique comme ça, rapidement. Et puis vous le disiez, le moindre mot, la moindre respiration de Donald Trump pourrait faire expirer ou inspirer le marché crypto. Et à moyen terme, ça n'empêche pas le cap de rester plutôt positif et aussi a priori.
Oui, c'est surtout que moi je pense que cette investiture, et ce qu'il va dire, est globalement positif, mais qu'il y a tellement d'attentes au préalable qu'il est possible que le jour J, si finalement il ne parle pas de crypto, il ne parle pas de Bitcoin, il y a quelque part une petite déception qui se ressent sur les marchés, mais que finalement, les mesures qui vont suivre vont rester plutôt positives pour le secteur.
Mais alors, on le disait, pour que l'adoption progresse davantage dans les pays occidentaux, il faut que les cas d'usage soient de plus en plus visibles, de plus en plus évidents, et apparaissent comme quelque chose d'absolument clair auprès du grand public. Mais il faut aussi que les cryptos restent diversifiantes, qu'investir dans les cryptos, qu'acheter du Bitcoin reste un acte diversifiant. Or, et c'est Cryptos qui nous alerte là-dessus, or le Bitcoin, là, depuis un mois, affiche une corrélation avec le marché américain et notamment un taux de corrélation au Nasdaq record. Corrélation qui atteint des niveaux pour l'instant jamais vus. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette recorrélation du Bitcoin au Nasdaq, Thibault?
En fait, tantôt Bitcoin est corrélé au Nasdaq, tantôt aux valeurs tech, tantôt à l'or. En fait, ça va vraiment dépendre des périodes. On essaye toujours de le comparer et de le corréler en fait à certaines valeurs, puisque c'est ce qui va permettre de l'évaluer et d'évaluer sa place surtout dans un portefeuille. On sait exactement comment les autres classes d'actifs vont réagir à une news. On sait exactement comment elles vont se comporter dans tel ou tel scénario. Donc en fait, en essayant de rattacher Bitcoin à une de ces classes d'actifs, on se dit bon, on va peut-être pouvoir un petit peu mieux anticiper ces mouvements, pouvoir un petit peu mieux savoir comment on doit le pondérer dans un portefeuille. Or, c'est assez délicat puisque Bitcoin a quand même des caractéristiques qui sont uniques. Il a des points communs et des points de différence avec chacune de ces classes d'actifs. Et il peut avoir effectivement des corrélations, mais qui sont à chaque fois temporaires. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Il reste quand même imprévisible et on ne peut pas tout à fait le lier à ces autres classes d'actifs.
Mmh. Rien à ajouter, Claire ?
Non,
tout est dit.
En fait, je suis d'accord avec Thibaut. Il faut bien voir que 30 jours, ça paraît long. Mais en fait, quand on mesure une corrélation, c'est assez court. Et c'est tout à fait logique que sur une longue série de mois, à un moment donné, il se passe 30 jours où Bitcoin est corrélé au Nasdaq. Et c'est pas grave, ce qui compte, c'est que sur le long terme, il y a une corrélation qui soit relativement faible.
Effectivement. Alors, on suit ce marché crypto au jour le jour, évidemment, sur BFM Business. Et lundi, BFM Crypto, le club Sandra Gondouin vous accompagnera tous les jours à 15h en direct, dès lundi, du lundi au jeudi. Bien sûr, votre rendez-vous des pros des cryptos aussi se poursuit, continue le vendredi. Mais voilà, on souhaite bon vent à Sandra, qui donc prendra les rênes du club BFM Crypto à partir de lundi, chaque jour en direct, et à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. En attendant, ceux qui font leur beurre avec le Bitcoin, c'est les mineurs. Le beurre et l'argent du beurre, puisque certains mineurs désormais louent, prêtent une partie des bitcoins qu'ils détiennent pour en tirer toujours plus de revenus. Les mineurs deviennent des prêteurs en quelque sorte, Claire.
Oui, c'est une manière pour eux de ne pas vendre leur bitcoin. Parce que vous savez que le business model, le modèle économique des mineurs, c'est évidemment d'être récompensé en bitcoin. Donc ils touchent leurs revenus en bitcoin. Et ensuite, eux, ils dépensent de l'argent généralement en monnaie fiat, en monnaie sonnante et trébuchante, pour payer l'électricité. Et ils payent rarement leur électricité en bitcoin, malheureusement. Et donc, tout leur enjeu, c'est de ne pas vendre leur bitcoin, de ne pas être forcé à vendre leur bitcoin pour payer leurs charges. Et donc, prêter leur bitcoin, c'est vraiment une manière de payer leurs charges sans forcément se départir de leur bitcoin, qui peut-être vont monter. Donc, c'est aussi un pari à la hausse sur le cours du bitcoin pour eux, et puis c'est une manière de toucher des rendements.
L'actu de la semaine, vous êtes sur l'avant de la vague, vos pros des cryptos chaque vendredi. Donc, lundi, Sandra Gondouin vous accompagnera à 15h, chaque jour du lundi au jeudi, donc, dans le club BFM Crypto, pour suivre l'actu au quotidien, puis ouvrir chaque jour, chaque après-midi, à chaque fois de nouveaux horizons. Merci beaucoup, Claire, de nous avoir accompagnés.
Merci.
Claire Balva pour Deux Blocs et Thibaut Boutroux qui nous accompagnait, lui, depuis les bureaux de Meria. Merci à vous aussi. Thibaut, on vous souhaite à tous un bon week-end. Les pros des cryptos à retrouver tout au long du week-end d'ailleurs sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.